commencer. Pour ce moment toujours si précieux, si approvisionnant, si délicieux, cette conférence qui m'est chère, avec ces cinq messages, j'aimerais poser une fondation, un fondement sur ce qui sera le fardeau, sur ce qui est le fardeau principal de ces cinq messages. Et je crois en toute sincérité, alors que je suis maintenant devant le visage radieux du Christ ressuscité, transfiguré, et je crois que ce message, ces messages ont leur source dans le Dieu trinitaire. Et donc le sujet général est le suivant, nous parlons du dessein éternel de Dieu qui est accompli. Donc nous devons savoir ce que c'est que ce dessein éternel. Et nous devons savoir comment ce dessein s'accomplit. Et comment est-ce que nous, nous sommes impliqués en tant que croyants en Christ Jésus et l'économie divine, qu'est-ce que c'est que ce terme, l'économie divine? Et en quoi est-ce que l'économie divine est liée à, au dessein éternel de Dieu? Eh bien, cette économie doit également être parachevée, ce qui implique un processus est en cours et qui doit être arrivé, qui doit arriver à son état final. Et la dernière étape du plan, du sujet général plutôt, dit que cette économie divine est parachevée, comment, ou plutôt par qui, par les vainqueurs, dans l'Église recouvrée. Et ces vainqueurs se trouvent où? Ils se trouvent dans l'Église recouvrée. Ici, l'adjectif « recouvré » est très important, il est crucial. Parce qu'une partie de notre témoignage est le suivant, nous sommes dans le recouvrement présent, actuel du Seigneur. Ce qui veut dire que Dieu a planifié quelque chose depuis le début, il a arrangé quelque chose depuis le début, il l'a révélé à travers son Fils, par les apôtres qui l'ont enseigné, qui l'ont même vécu et qui ont appliqué ce que Dieu avait préparé et établi. Et pour respecter la prophétie du Seigneur dans Matthieu 16 et dans Apocalypse 2 et 3, au travers des siècles, il y a une effroyable dégradation qui s'est produite. Les choses ont été tordues, ont été mal interprétées, ont été déformées, ont été défamées. Et au lieu d'avoir un organisme que le Dieu trinitaire, que le Seigneur Jésus pourrait appeler « mon Église », nous avons à la place cette organisation hiérarchique, organisée, religieuse, la chrétienté que nous retrouvons sur toute la terre. Donc Dieu a réagi très fortement. Il a utilisé l'Allemagne pour réagir à cette dégradation il y a plus de 500 ans. Et il a commencé à recouvrer la vérité, avec notamment les versets cruciaux qu'il a utilisés dans Romains chapitre 1. Et donc Luther a été illuminé avec ces versets, sa vie a changé, et ainsi que finalement toute autre chose, tout a changé grâce à cette intervention. Les justes vivront par la foi et vivront. Voilà un des versets clés. Et depuis donc 500 ans, il y a eu un processus qui a avancé jusqu'à ce que le Seigneur a dit, lorsqu'il a dit « Je bâtirai mon Église », ce qu'il voulait dire en déclarant cette chose, dans Apocalypse 2 et 3, lorsqu'il a dit « Dis-le à l'Église ». Dans Apocalypse 2 et 3, il ne dit pas « dites-le à une église » ou « dites-le à une dénomination », mais il a dit « dites-le à l'église ». Donc, cette vérité-là a été recouvrée il y a presque 100 ans. Mais pour pouvoir avoir ce recouvrement, il n'a pas pu le faire aux États-Unis, il n'a pas pu le faire en Europe non plus, donc il est parti en Chine pour pouvoir avoir ce recouvrement. Et donc ce qu'on appelle l'Église recouvrée, c'est la pratique de la vie d'Église ordonnée par Dieu pratiquée par Jésus, enseignée par les apôtres et rapportée dans les Écritures. Voilà l'Église recouvrée. Et dans cette Église recouvrée, comme ce sera le cas dans tous les rassemblements chrétiens majeurs, il y a un groupe, il y a certains que le Seigneur désigne comme les vainqueurs. Et je ne sais pas quelles sont les instructions que vous avez peut-être reçues vis-à-vis de ce mot vainqueur. Nous allons peut-être l'étudier ensemble demain dans un des messages, mais j'aimerais quand même aborder avec vous deux aspects ce soir. Et les croyants, et je n'exagère pas, il y a des millions de croyants, pardon, qui sont détournés, emmenés par d'autres vers la destruction. Effectivement, alors dans Jean 1 Jean chapitre 5, il est dit que voilà la victoire qui vint sur le monde par notre foi. Nous, les croyants, nous pouvons vaincre le monde par la foi. Ainsi, tous les croyants régénérés, nés de Dieu, qui ont la vie de Dieu. Christ, comme la foi a été infusée dans ce croyant, eh bien, il a la foi pour déclarer la victoire sur le monde. Mais dans la parole du Seigneur, dans Apocalypse 2 et 3, il parle à différentes églises. Il parle d'église à église. Parce qu'il est très au clair. Il sait très bien que dans une ville, il doit y avoir une église. Et voilà ce qu'il voulait présenter, ce qu'il voulait évoquer. À chaque fois qu'il s'adresse à ces sept villes, ces sept églises, il lance un appel. Il lance un appel aux vainqueurs. Des vainqueurs qui se trouvent parmi ces croyants dans ces villes. Ce qui indique qu'il y a une situation générale avec des vrais croyants. Eh bien, la situation peut être telle qu'ils ne savent pas ce qu'est l'intention éternelle de Dieu. Ainsi, ils ne sont pas en mesure de mener à bien le dessein éternel de Dieu. Mais le Seigneur arrivera à produire auprès de certains qui, à n'importe quel prix, pourront ou voudront faire la volonté de Dieu et accomplir l'économie divine pour la gloire de Dieu et pour la satisfaction du désir qui est dans le cœur du Seigneur. Donc, toujours à propos de ce sujet général, nous avons dit que nous allons parler du dessein éternel de Dieu. Je crois que j'ai le sentiment du Seigneur et sa paix et son onction de donner un témoignage simple. Après vous avoir lu trois versets de Éphésiens chapitre 3, les versets 9 à 11, afin et d'illuminer tous les hommes pour qu'ils voient quelle est l'économie du mystère qui, à travers les âges, a été caché en Dieu, qui a créé toutes choses, afin que maintenant, aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes, la sagesse multiforme de Dieu soit donnée à connaître par l'Église, selon le dessein éternel qu'il a formé en Christ Jésus, notre Seigneur. En juin 1966, deux ans après avoir terminé, moi, ma formation de théologie à l'école de Princeton, et après deux ans, arrangé par Dieu dans un désert spirituel que j'ai traversé, ce qui m'a permis de reconsidérer certaines choses, un certain nombre de choses, à la lumière de la vérité de la parole écrite de Dieu. Et j'étudie donc la théologie parce que j'ai eu l'appel du Seigneur de servir dans le ministère. Et pour moi, c'était passer par une école de théologie, être ordonné pour être pasteur, c'était ça, être un ministre du Seigneur. Mais je me suis rendu compte, en lisant la Bible pendant ces 2 années dans le désert spirituel, qu'il n'y avait pas de hiérarchie dans la Bible. Et donc, je me suis rendu compte qu'il n'y a aucun groupe dans la chrétienté qui est ouvert à l'esprit, qui est dans l'unité. Et donc, je me suis résolu, en 1966, en juin, à quitter l'intégralité du système de la chrétienté. Et donc, j'étais au Michigan, je voulais aller en Californie, et donc, je me suis d'abord marié avec mon épouse, qui est maintenant auprès du Seigneur, et je suis allé ensuite en Californie. Alors, maintenant, après, en août, je passais plusieurs heures à étudier Éphésiens, le livre d'Éphésiens. Et je connaissais un petit peu de grec. En fait, non, je connaissais plutôt bien le grec. Et donc, je lisais le texte en grec et le texte en anglais plusieurs fois. Et j'étais bien conscient des mots qu'il y avait dans ce livre d'Éphésiens. Mais lorsque j'ai lu, ou lorsque je lisais ces 3 versets, Éphésiens 3, 9, 10 et 11, j'étais ébahi. Et spontanément, j'ai prié au Seigneur. Et je vais vous partager ma prière. Mais pour éviter toute confusion, j'aimerais expliquer d'abord ma prière. Je me suis rendu compte que c'est merveilleux. Ces versets sont merveilleux. Le dessein éternel. Qu'est-ce que c'est que ce dessein éternel? Et la prière qui m'est venue alors, c'est Seigneur, l'homme qui pourrait me montrer ce que cela veut dire. Je le suivrai, ce qu'il voulait dire, ce que je voulais dire. Ça veut dire, je peux faire confiance à ce qu'il enseigne, parce que cela vient de Dieu, c'est selon Dieu. Je ne veux pas suivre une personne pour suivre une personne, et nous ne ferons jamais une chose pareille. Nous ne sommes pas là pour suivre quelqu'un, ou qui que ce soit. Voilà donc ma prière. Seigneur, si quelqu'un peut me dire ce qu'est le dessein éternel, je suivrai son enseignement. Maintenant, 6 ans plus tard, je suis à Oakland, en Californie, et je recherche le Seigneur en lui demandant « Que dois-je faire ?» Je lisais l'Église, la vie d'Église normale, la vie chrétienne normale, et j'étais convaincu. Et je me suis dit « Il faut que nous devrions pratiquer ce qu'il y a dans ce livre, la vie d'église chrétienne normale. Nous devrions aller dans une ville qu'il a donnée et puis susciter une église comme c'était écrit dans le livre. Et c'était ce qu'on voulait faire. Ça peut paraître un petit peu audacieux dit comme ça, mais c'était ce que la Bible présentait, révélait. Donc c'est ce que nous voulions faire. Et donc un frère m'a parlé ensuite et il m'a dit, dans l'église à San Francisco, plusieurs frères étaient en train de prier. J'étais à San Francisco, pardon, et donc des frères étaient en train de prier avec moi, et puis certains sont partis. Et puis donc, à l'issue de la réunion avec ces frères, ce frère, le dernier frère qui est resté dans la pièce, m'a approché, il m'a dit, « Mon frère, j'ai l'impression que tu as lu Watchman Nee, parce que la façon dont tu t'exprimes ou les mots que tu utilises indiquent cela. » Et donc je lui dis, « Effectivement, c'est vrai. » Et puis donc dans la conversation, il m'a indiqué que le frère Watchman Nee, que tu apprécies, a un collaborateur qui est à Los Angeles, qui s'appelle Witness Lee, et qui a suscité des églises locales. Et donc il m'a donné donc, cette information-là, et puis certains livres. Certains d'entre vous, peut-être que vous devriez aller sur Internet pour voir ce que c'est qu'un mémographe. C'est le format ancien utilisé par le passé pour pouvoir imprimer, enfin plutôt reproduire comme une photocopie du papier. Et donc, j'ai photocopié avec cet objet-là le terrain de l'Église, la réalité de l'offrande d'Holocauste. Et ce qui m'a le plus marqué, c'était un magazine qui s'appelait Le Courant, The Stream. Et donc, dans ce livre-là, ce magazine, il y avait plusieurs sections, plusieurs parties, et l'une d'entre elles était l'exposition ou la présentation de ces versets d'Éphésiens 3, 9, 10 et 11. Et donc, la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre la voie du recouvrement, c'est parce que, tout simplement, il y avait là la vérité. C'est la vérité qui m'a attiré. Je ne recherchais pas pour une église dans laquelle les gens m'aimeraient. Je n'étais pas narcissiste. Je ne regardais pas à une forme de réunion particulière ou à des choses comme cela, mais je regardais à trouver une église dans laquelle les choses étaient selon ce que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Et je l'ai trouvé il y a 53 ans. Et voilà, maintenant, je suis devant vous, plus jeune, plus heureux et plus frais que plus cela n'a jamais été le cas auparavant. Tout ceci n'est pas de la doctrine, n'est pas une théorie pour moi. Non, c'est ma raison d'exister aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je suis ici, c'est la raison pour laquelle je me lève tous les matins. C'est pour vivre cette réalité-là, et pas d'une manière individuelle, mais collective. En étudiant donc ces versets, que vous pourriez étudier vous-même lorsque vous aurez le temps, vous verrez que ce dessein éternel de Dieu, nous en parlons également dans Éphésiens 1, 9, où il est dit que Dieu a préparé quelque chose en lui-même. Il s'est proposé quelque chose en lui-même. Et donc, au verset 3, 11, on voit que cette proposition qu'il s'est faite en lui-même est le dessein éternel. Et ce dessein éternel est lié à l'Église. Le dessein dans Éphésiens 3, 11 et l'Église dans le verset 10. Et cela, ce lien, se fait grâce à la conclusion du verset du chapitre 1 qui dit que que le chapitre se termine avec l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Lorsque nous nous rendons compte de cette connexion entre ce que Dieu s'est proposé, entre le dessein éternel, entre l'Église, nous voyons que ce qu'il souhaite avoir, c'est une merveilleuse, glorieuse expression de lui-même, des millions de croyants, des millions de fils qui pourront l'exprimer et qui pourront le représenter et ainsi amener sur la terre son royaume. Et c'est pour cela que le Dieu trinitaire a dit « Faisons l'homme à notre image au travers de l'espace du temps, nous allons œuvrer cette chose-là pour avoir cette expression collective, corporative sur la terre. » L'économie de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est le plan de Dieu, c'est l'arrangement de Dieu pour œuvrer, pour mettre en œuvre son dessein éternel. Donc il y a une expression dans Éphésiens 1, 11 qui dit que Dieu opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. La définition que nous donnons à ce mot « conseil », comme d'autres versets l'indiquent, c'est que dans l'éternité passée, les trois de la déité se sont retrouvés pour considérer comment allons-nous mener à bien ce dessein éternel. Et la décision qui a été prise de chaque détail est devenue le conseil. Et l'économie, c'est la façon, c'est la mise en place pratique du conseil qui est là pour accomplir le dessein éternel de Dieu. Nous devons avoir un homme, nous devons avoir la terre, nous devons avoir l'Europe, nous devons avoir l'Allemagne, nous devons avoir le Pays-Bas, nous devons avoir tous ses frères et sœurs dans la réunion ce soir. Dans Éphésiens 1, 4, il est dit que nous avons été choisis en lui pour être saints. Je suis désolé, vous n'avez pas le choix. Vous avez été choisis par Dieu pour être saints et vous avez été prédestinés à la filialité. Amen. Donc l'économie de Dieu, d'abord, c'est un plan, puis un arrangement, une disposition qui est dans le but de se dispenser en nous, d'abord par la régénération, puis en grandissant en nous, en nous sanctifiant, en nous renouvelant, en nous transformant, afin que, comme Romains 8, le 10, au verset 28 et 29, soit accompli. Les croyants aiment beaucoup ces deux versets, Romains 8, 28 et 29. Peut-être qu'ils ne savent pas pourquoi, en revanche. Il dit que nous savons que toute chose coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et quel est son dessein? Eh bien, continuez simplement à lire le verset suivant, le verset 29, qui dit que nous qui avons été connus d'avance, il nous a prédestinés à être rendus conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né entre beaucoup de frères. Et ces nombreux frères sont les membres du corps de Christ, dans Romains 12, qui est un chapitre qui parle, donc oui, du corps de Christ, qui est l'Église que l'on retrouve dans Éphésiens. Je me rends compte que c'est une présentation un petit peu brusque, un petit peu rapide. Mais nous allons rentrer dans ces détails-là, dans ce message. Et si vous êtes pas, si vous comprenez pas tout, eh bien écoutez, venez me voir après la réunion, envoyez-moi un SMS, envoyez-moi un email. Je n'ai pas peur de recevoir quoi que ce soit comme message. Nous aimons la vérité, nous aimons la découvrir ensemble et nous aimons le faire, oui, collectivement. Et ce dessin et cette économie se parachèvent dans l'Église recouvrée. Alors, lorsque le Seigneur revient au temps choisi par Dieu, dans Matthieu 18, il y a une certaine situation. Les disciples ont reçu cette question du Seigneur. « Qui dites-vous que je suis ?» Donc, on lui a répondu, « Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et le Seigneur, qui a répondu, a dit, sur ce rocher, le rocher de que je suis moi, mais aussi de cette révélation qui vous a été donnée, dans Matthieu 16, il a dit, sur ce rocher-là, sur ce roc, je bâtirai mon Église. Alors, à présent, respectueusement, devant vous, j'aimerais que devant le Christ en ascension, Seigneur qui est dans les cieux, lorsque tu regardes sur la terre, est-ce que tu peux dire, mon Église? Est-ce que tu peux nous donner ce qualificatif? Lorsque tu regardes le Vatican, est-ce que tu peux dire, voilà mon Église? Lorsque tu regardes, Seigneur, les églises d'État en Europe, est-ce que tu es en mesure de dire, voilà mon Église? Lorsque tu regardes les centaines de dénominations aux États-Unis, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais être très direct, très clair, cela fait partie de toute la dégradation. Tous ceux qui ont donné nom à une église, moi j'ai hâte par exemple de rencontrer Martin Luther. Je ne sais pas s'ils nous parleront tous le même langage ou je demanderai alors à Martin ou je dirai, je te remercie Martin pour tout ce que tu as fait, mais ce que tu as débuté, il a fallu plus de 500 ans pour pouvoir le mener au bout, mais nous apprécions ce que tu as fait à n'importe quel prix, où tu as payé le prix pour recouvrer l'Église, pour la lancer dans le recouvrement. Tout est fait donc pour l'accomplissement de ce qui a été prophétisé dans Matthieu 18. Ceux qui sont donc dans Matthieu 28, on pose la question au Seigneur, est-ce que c'est selon la loi de divorcer d'auprès de sa femme? Donc eux étaient dans la doctrine. Et donc, le Seigneur a répondu, qu'est-ce que Moïse a répondu? Et ils ont répondu, mais Moïse nous a autorisé à le faire, à divorcer. Et le Seigneur a répondu à son tour, c'est parce que votre cœur est si dur. Cela veut dire que votre cœur était tourné vers ce genre de choses. Et ce n'était pas le cas, les choses n'étaient pas comme ça dès le commencement. Au début, au commencement, c'était une femme pour un époux, un mari. Et la femme quitte sa famille pour s'unir avec son mari pour devenir une seule chair. Ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Vous voyez ici, entre le contraste qui existait entre ce qu'il y avait au commencement et ce qui a été autorisé par Moïse auprès des religieux par rapport à la dureté de leur cœur. Vous voyez la situation ? De dégradation. Aujourd'hui, dans l'âge de l'Église, dans l'âge de la grâce, le Dieu souverain n'oblige personne à suivre sa volonté. Donc, il va autoriser les croyants sur toute la terre à vivre selon ce qu'il autorise, ce qu'il leur permet de faire. Je permets aux dénominations d'exister. Je permets à cette institution d'exister. Ce n'est pas ce qu'il y a dans mon cœur. Ce n'est pas mon dessein éternel. Mais vous pouvez vivre dans cette sphère-là qui vous appartient, si c'est la façon dont vous voyez les choses, mais par la miséricorde du Seigneur, absolument. En même temps, de 1964 à 1966, moi, j'ai pris cette décision alors que j'étais dans la chrétienté, selon le sentiment que j'avais à l'intérieur de moi. J'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je n'accepterai pas ta volonté permissive. Je ne vivrai pas comme ça. Je ne veux pas vivre comme ça. Je choisis ta volonté parfaite, ta volonté éternelle. Je ne sais pas ce qu'elle est. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas où elle s'accomplit. Mais je vais savoir, je veux connaître ce que c'est. » Et au travers de ce magazine que j'évoquais, Le Courant, The Stream, en septembre, fin septembre de 1966, c'est là que j'ai découvert le dessein éternel de Dieu. Dans l'évangile de Jean, nous voyons qu'il avait un ministère réparateur. Donc, Dieu n'a pas utilisé un mouvement de jeunesse comme aux États-Unis, mais il a utilisé Jean, qui avait 90 ans. Donc, il a commencé donc à manifester son ministère, pardon, à Jean, s'est manifesté quand il avait 90 ans. Il a commencé ainsi. Il a commencé en disant, au commencement, il y avait la parole. Parce que l'intention était de ne pas répéter l'histoire telle qu'on la connaissait, mais de repartir au commencement, à l'origine, avec Dieu. Et voilà donc ce qu'est le recouvrement. C'est de repartir à ce qui était à l'origine. Dans le chapitre 16, on parle de l'Église que le Seigneur veut édifier. Et dans Matthieu 18, il y a eu donc davantage de communion. Pardon, on est dans Apocalypse 2 et 3, quand le Seigneur dit à Jean, dans ses écrits, dit aux églises, quand il s'apprête à écrire les sept épîtres. Et en allemand, on a les prépositions der, die et das. Alors que ici, dans le texte, Apocalypse 2 et 3, il dit « dites-le à l'Église », pas à une Église, mais à l'Église. Dans Apocalypse, chapitre 1, il présente la révélation à Jean. Il a dit « ce que tu vois, écris-le, écris les choses que tu as vues, ce qu'elles sont, ce qu'elles vont arriver, et envoie-les aux sept églises ». Et puis donc au chapitre 2, il commence à s'adresser aux églises, à l'église et aux messagers de l'église à Éphèse, ensuite aux messagers de l'église à Smyrne. Donc si quelqu'un connaît l'église, assurément c'est Jésus. Et donc, à nouveau, à la fin d'Apocalypse, dans le chapitre 22, le Seigneur dit « Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses pour les églises ». Tout comme Martin Luther s'est tenu contre le système des sacrifices des sacrements, de l'Église catholique romaine, et comment nous pouvons être justifiés par Dieu selon la foi, il a utilisé donc Romains 1, 17 pour pouvoir se faire. Nous faisons la même chose. Nous nous tenons avec ce qui était dès le commencement selon mon Église et l'Église. Et j'aimerais ajouter cette chose-là. Mon Église, c'est l'Église universelle qui contient tous les croyants. Lorsque nous établissons une Église recouvrée dans une localité donnée, parce que le terrain d'une telle Église a été abandonné par tout le monde, nous nous tenons pour une raison double. Nous nous tenons là pour une raison double. D'abord pour honorer Dieu, pour honorer l'unité du corps de Christ. Et nous prenons cette position du terrain de l'unité pour tous les croyants qui se trouvent dans cette ville-là. Nous ne limitons pas l'Église avec nous-mêmes. Non. notre cœur, nous recevons tous les croyants de cette ville-là, qu'ils nous connaissent, qu'ils ne nous connaissent pas, qu'ils sont d'accord avec nous ou pas. Cela ne change pas le fait établi que chacun fait partie de cette église, de la ville dans laquelle nous sommes. Avec ce fondement, nous allons regarder le message 1. Si vous pensez que ce sujet, si vous vous demandez si le sujet est nouveau ou si on va pouvoir terminer à temps, parce qu'on n'a même pas commencé à regarder le plan, j'aimerais vous dire que je viens juste de me mettre en chauffe et de commencer, mais ne vous inquiétez pas, nous allons finir à temps vers 9h. Dans la lecture biblique, le dernier verset est un verset très précieux, 2 Timothée 1:9. Je vais vous le lire et je ne vais pas me baser sur ma mémoire, mais je vais vous le lire. Considérez bien ce verset et ce qu'il veut dire pour vous. Paul se réfère à Dieu lorsqu'il dit qui c'est Dieu qui nous a sauvés et a appelés d'un saint appel. Non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa grâce, qui nous a été donné en Christ Jésus avant les temps des âges. Pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés? Pourquoi nous a-t-il appelés? Cela a été fait selon son propre dessein. Il ne vous a pas sauvés afin que vous puissiez, à la fin de votre vie, afin que vous puissiez aller dans un endroit merveilleux, fabuleux, dans les cieux. Jean 14 ne parle pas des cieux, mais parle de l'Église comme la maison du Père. Je sais que je suis en train de semer une petite semence ici. Ce sera un sujet pour peut-être une conférence future. Mais je veux avoir votre attention sur ce sujet-là. Et c'est pour ça que peut-être que ça va d'ailleurs engendrer de la communion parmi vous. Lorsque nous recherchons à savoir la vérité, à la connaître, nous voulons vivre ce proverbe qui se trouve vers la fin du livre de Proverbes. C'est par la vérité, achetez la vérité et ne la vendez pas. La vérité, c'est pas... La vérité, elle est chère. Elle a un coût. Elle a un prix. Je suis heureux, moi, de payer le prix, comme Dieu a payé le prix pour avoir cette perle de grand prix. Et vous savez, c'est un des deux versets que le Seigneur m'a révélé en septembre 1966. Cette perle, c'est l'Église pour laquelle le Seigneur est mort, pour laquelle Christ est mort. Donc nous avons été sauvés parce que Dieu a un dessein éternel. Et il nous a choisis dans l'éternité passée pour être saints. Il nous a prédestinés à la filialité. Et puis, dans le temps, à un moment donné, le Seigneur est arrivé pour défaire l'ennemi, pour mourir, une mort, substitutive, pour répandre son sang, pour le pardon de nos péchés, la rémission des péchés, et pour libérer la vie divine. Et puis, enfin, l'Évangile nous a atteints, nous a été partagé en partie ou dans sa totalité, et la foi nous a été infusée, et nous avons alors confessé que Jésus est le Fils de Dieu, que Dieu a ressuscité Jésus des morts, et je crois en lui, je le reçois. Voilà ce que nous avons, voilà notre expérience, nous avons été sauvés, et il est peu probable qu'à ce moment-là, nous nous rendions compte de pourquoi. Eh bien, nous avons été sauvés pour son dessein. Et laissez-moi vous poser cette question directement, mais tendrement, et même avec affection. Ne devrions pas vivre pour cela, pour ce dessein éternel, si nous avons été créés pour cela, si c'est pour ça que nous avons été sauvés. Ne devrions pas, n'avons-nous pas envie de savoir ce qu'est le dessein éternel de Dieu et de vivre pour ce dessein? Eh bien, dans ce verset ici, de Timothée 1:9, Paul dit que nous avons été sauvés selon son propre dessein. Puis au chapitre 3, lorsqu'il encourage Timothée, lorsque Paul encourage Timothée, qui devra continuer à avancer dans une atmosphère dégradée après le martyr de son père spirituel, donc de Paul. Au verset 10, il dit à Timothée, « Mais toi, Timothée, tu as exactement suivi mon enseignement, ma conduite, mon dessein, ma foi, ma longanimité, mon amour, mon endurance, mes persécutions, mes souffrances. Tu as exactement suivi mon dessein. » C'est ce que Paul dit à Timothée. Mais dans 1 Timothée, dans 2 Timothée 1,9, il dit le dessein de Dieu, le propre dessein de Dieu. Et dans 2 Timothée 3,10, il dit mon dessein. Et Timothée, lui, a suivi le dessein de Paul. Donc voilà ce que nous voyons. Le dessein de Dieu est devenu le dessein de Paul que Timothée a suivi. Et donc nous pouvons ainsi dire, c'est ce que Paul pouvait dire, mon dessein est le dessein de Dieu. Et ma raison de vivre, Timothée, ma raison d'être répandue comme une libation, comme un martyr, pour le compte du Seigneur et pour pouvoir accomplir mon dessein. C'est devenu partie, cela fait partie de mon dessein. Voilà même le parachèvement de mon dessein pour le Seigneur. J'achève ma course, j'ai combattu le bon combat, j'ai conservé la foi. Le Seigneur a établi que je meurs de cette façon-là. Je suis une libation qui est répandue pour vous tous. Timothée, toi, tu as suivi exactement mon enseignement et mon dessein. Donc, je peux dire une chose pareille. Moi, je n'ai jamais suivi le frère Witness Lee comme un homme. Nous ne suivons pas un homme. Mais je pouvais faire confiance avec le discernement, avec l'étude, avec la prière, je pouvais suivre son ministère. Et je peux continuer à suivre l'exemple, le modèle d'un homme dont le dessein était le dessein même de Dieu. Nous allons regarder le plan qui parle de lui-même, vous verrez. Et je ferai certains commentaires lorsque je jugerai que cela est judicieux. Le dessein éternel, le dessein des âges, est le plan éternel que Dieu a formé dans l'éternité passée. Et parce que Dieu est très, il est exact, il est pointillé, détaillé. Je crois que cette conférence a été planifié il y a très, très, très longtemps. Et que nous soyons tous vivants, sauvés, et ici, cela a été planifié il y a très, très longtemps. Ce plan est appelé le dessein éternel, car il a été planifié dans l'éternité passée pour l'éternité future. Nous avons chanté ce cantique. Dans le temps, nous sommes de passage. Nous sommes destinés à l'éternité. B. Dieu lui-même est le commencement. Il est l'origine et la sphère de son dessein éternel. Cela vient de Dieu. Rien n'existait. Pas d'espace, pas de temps, pas d'univers, pas d'ange. Il n'y avait que le Dieu même qui existait, le Dieu, le grand Je suis, le Dieu trinitaire. Il a tout créé par rapport, selon sa volonté. C'est ce que nous dit Apocalypse 4, 11. Et la volonté de Dieu, c'est ce qu'il désire, c'est ce qu'il souhaite. Selon son dessein, sa volonté, il a établi son dessein en Christ. C'est le dessein qu'il a établi, qu'il s'est proposé en lui-même. Donc c'est lui vraiment qui est la source, qui est l'origine. En ce qui concerne son dessein éternel, Dieu n'a consulté personne. Ainsi, je considère que mon Dieu a le droit tout à fait de déterminer ma vie, la direction de ma vie, les détails de ma vie, sans me demander la permission, en quoi que ce soit. Il ne me demande pas, Ron, quel est ton sentiment vis-à-vis de cela? Il me dit simplement, Ron, voici ma volonté. Vas-tu obéir ou pas? Voilà ma volonté parfaite qui t'atteint, qui t'est présentée. Qu'est-ce que tu fais? Je te demande, je te dis, parce que je suis ton Dieu. Et moi, j'ai dit, moi, je réponds, j'aime quand c'est comme ça. J'ai juste besoin d'avoir cette assurance à l'intérieur de moi que c'est toi, que c'est bien toi que je contacte, que c'est pas mon propre cœur, que c'est pas un esprit trompeur. Donc, j'ai besoin d'être vraiment, oui, attentif, mais je sais que c'est toi qui me le demande. Donc, ça y est, la décision est prise. Je dis amen. Je ne regarde pas derrière. J'avance avec toi. Petit 2. Tout sert pour le dessein de Dieu et rien ne peut le renverser. Je ne vais pas dire que tout ce qui nous arrive est ordonné par Dieu. Il y a une sphère mystérieuse et un problème qu'on ne peut pas résoudre. Les souffrances par lesquelles nous passons. Mais je sais que, en revanche, Dieu se sert de toutes ces choses pour son dessein. Parce que tout concourt, tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Pas ceux qui aiment Jésus, mais ceux qui aiment Dieu. Dieu qui est Dieu. Vous aimez le Dieu souverain, qui a l'absolue autorité de prendre toutes les décisions. Vous ne vous inclinez pas devant lui seulement. Vous aimez Dieu en tant que Dieu, le Dieu souverain, et vous aimez son dessein. Et moi, je crois cela. Peut-être qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe dans nos situations, jusqu'à peut-être des années plus tard. J'ai des questions très profondes que je me pose et je crois que je ne pourrai avoir de réponse que lorsque je rencontrerai le Seigneur. J'ai un sentiment, notamment quand je rencontrerai le Seigneur, peut-être que j'oublierai toutes mes questions. Je n'aurai plus aucune question à lui poser. Mais d'un autre côté, et là c'est juste une pensée que j'aimerais vous présenter. Ce n'est pas spirituel, c'est juste ma pensée à moi. Le Seigneur sera toujours humain. Et je crois qu'il prendra soin de nous. De toutes les situations que nous rencontrons, de tous les sentiments que nous avons en nous et de toutes les choses pour lesquelles nous avons besoin d'avoir une réponse. Donc je laisse ça dans les mains du Seigneur. S'il oublie de répondre à ma question, eh bien c'est pas grave. Et s'il répond à ma question, eh bien il le fera selon son dessein, selon son envie. Je lui laisse la décision. C'est tellement agréable de vous donner au Seigneur et de rester dans le fleuve d'eau de la vie qui vous emmène là où le désir. Ceux qui sont ici ce soir, comment vous êtes venus jusqu'ici? Vous êtes ici parce que nous sommes dans la même rivière, dans le même fleuve qui coule depuis le trône et qui nous emmène vers la même destination. C'est vraiment une façon merveilleuse de vivre notre vie. Lorsque je vois ce frère, je dis plus de Christ depuis qu'on s'est vu la dernière fois. C'est pas, je ne fais pas ça pour faire un spectacle, je ne suis pas en train de prétendre, mais c'est vraiment mon sentiment. Nous sommes tous dans ce fleuve à recevoir plus de Christ. Dans Romains 8, 28, son dessein fait référence à la détermination intentionnelle, c'est un mot important ici, détermination intentionnelle du plan de Dieu. Le dessein de Dieu est de produire de nombreux frères à son fils premier-né. Les nombreux frères sont les nombreux fils de Dieu qu'il conduit à la gloire. Hébreux 8, 10 dit qu'il amène de nombreux fils dans la gloire. 2, 10 plutôt. Celui qui sanctifie et ceux qui sont en train de sanctifier viennent tous d'un seul, qui veut dire d'une seule source. Ainsi, il n'a pas honte de les appeler mes frères. Et puis il dit, au milieu, au sein de l'Église, moi, Jésus, je chante des cantiques de louange au Père. Donc, nous avons ici les fils, les frères, et donc, aux yeux de Dieu, les hommes et les femmes des croyants sont des fils, sont des frères. Et les hommes, comme les femmes, sont l'épouse. Donc, Dieu est équitable, il neutralise les frères comme les sœurs, et nous sommes tous des frères, des fils et l'épouse. Donc les fils vous incluent, vous les sœurs, et l'épouse, vous les frères, vous incluent aussi. J'aimerais j'aimerais déclarer la parole de Dieu et la soutenir pour ne pas laisser l'ennemi utiliser ce genre de mots pour vous donner le sentiment que vous êtes exclu des frères ou de l'épouse. Amen. Le dessein de Dieu est d'avoir l'Église, le corps de Christ, au moyen duquel il peut s'exprimer. Prenez le temps, simplement, dans la prière, avec ces versets, Éphésiens 1:5. Il nous a prédestinés à la filialité selon sa volonté. Verset 9. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Verset 11. Dieu opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Le verset 9 utilise le verbe proposer. Et puis nous avons enfin le point culminant, l'Église. L'Église est ce que Dieu désire, qui est l'expression corporative de Christ avec ses frères, avec les fils du Seigneur, les fils de Dieu, les frères du Seigneur, qui devient l'épouse, le complément de Dieu, du Seigneur plutôt. La volonté de Dieu, son bon plaisir et son dessein éternel sont pour obtenir l'Église. Pensez à quel moment est-ce que dans votre vie, l'intersection s'est faite avec la volonté de Dieu. J'aimerais donc vous poser la question. Quelle est son intention vous concernant? Ou que va-t-il vous permettre de faire? Peut-être que vous pourriez dire au Seigneur, « Seigneur, je veux ce que tu veux, toi. » Et je vous dis que la plupart du temps, ce sera une croix que vous devriez prendre. Mais lorsque nous prenons sa parole, suivons sa parole, avec la croix, le résultat, c'est d'être rempli de joie et d'avoir une grande satisfaction et une vie qui est remplie de sens. Le bon plaisir, qui est finalement le désir qui se trouve dans son cœur, c'est vraiment une expression ici qui est très douce, une des plus affectueuses dans le ministère, qui est le bon plaisir de Dieu. Ce désir dans le cœur de Dieu, ce désir-là est de préparer des noces pour son Fils et de lui donner une épouse, un complément, un vis-à-vis pour son Fils. Et voilà comment la Bible tout entière se termine dans Apocalypse 19. Réjouissez-vous et exultez, le mariage de l'agneau, les noces de l'agneau sont arrivées. Parce que son épouse s'est préparée. Donc frère, vous n'êtes pas seul à attendre votre épouse. Le Seigneur aussi attend son épouse. Il attend également sa mariée. Donc c'est une histoire romantique, une histoire d'amour. Et il y a enfin, dans ce point D1, le dessein éternel, qui est d'avoir l'Église. C'est la volonté de Dieu, c'est le désir dans son cœur, c'est son bon plaisir, c'est le dessein éternel. Une fois que la lumière brille, que pouvons-nous faire? Mais il y a un sujet important ici, j'ai le sentiment de vous le partager. Dans Jean 11, le Seigneur a dit, si quelqu'un souhaite faire sa volonté, il connaîtra l'enseignement, savoir si oui ou non je parle de Dieu. Il y a donc une condition ici, dans le chapitre 11 de Jean. Si l'intention de quelqu'un est de faire ce que Dieu me révèle, ce que Dieu me montre, selon sa volonté, et c'est pour ça que je la recherche, cette volonté, je ne suis pas simplement curieux de la connaître. Je veux vivre pour ta volonté, quelle qu'elle soit, tant que cela vient de toi, tant que c'est la tienne et que tu en es la source. Je choisirai toujours de vivre pour ta volonté. Je veux que tu vives en moi. Je ne peux pas moi le faire, mais toi, je te choisis toi et je choisis de faire ta volonté. Et si le Seigneur sait qu'en fait, vous n'êtes que curieux, finalement, ou vous supposez que sa volonté ressemblera à quelque chose et que quand elle vous est finalement révélée, vous dites non, non, en fait, non, je ne veux pas le faire. Je ne veux pas vivre comme ça, je ne peux pas payer ce prix-là. Mais j'aimerais mettre l'accent sur le cœur de notre Père. Il nous répond toujours. Il répond à la prière que Paul a faite pour nous. Paul a prié au notre Père de gloire de nous donner un esprit de sagesse, un esprit de révélation dans la pleine connaissance de lui. Peut-être que cette prière, pour certains, sera répondue. Dieu y répondra ce week-end directement pour vous montrer au travers de sa parole, voilà quelle est ma volonté, voilà quel est mon désir, voilà quel est mon dessein. Amen. Dieu a prévu d'accomplir une seule chose, gagner un groupe de personnes qui soient exactement comme lui. Voilà le sujet, le seul sujet de la Bible. Je me rends compte que être exactement pareil à lui peut être un problème pour certains. Eh bien, moi, je suis père. J'ai un fils, deux fils et une fille. Et je me suis rendu compte qu'ils ont tous la même vie que moi. Ils ont même la même nature que moi. Ils ne sont pas le père. Ils ne peuvent pas avoir la paternité. Il n'y a que moi qui ai la paternité. Mais ils sont comme leur père, comme leur mère, selon la vie et la nature, de tellement de façons. Et si mon fils le plus âgé était parmi vous, et que vous pouviez le connaître, vous vous diriez, mon fils me ressemble beaucoup. Il a même le même sens d'humour que moi, qui est un petit peu décalé. Donc vous vous diriez, comment est-ce que tu as récupéré ces caractéristiques? Eh bien, c'est simplement de moi qui est son père. Donc, nous serons ici rendus pareils, pareils à notre père. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes nés de l'Esprit. Notre esprit est vie, selon Romains 8, 10. Nous avons la vie divine, nous avons la nature divine. Et de cette façon, ainsi, nous sommes exactement pareils que lui, que Dieu, mais jamais, évidemment, dans la déité. Jamais dans certains attributs de Dieu comme l'omniprésence. Je ne peux pas être à Anaheim et à Barlow. Je ne peux pas être dans ma chambre et en même temps ici devant vous. Mais Dieu, lui, il est partout. Il est tout-puissant. Je ne serai jamais tout-puissant. Il est omniscient. Il est omniprésent. Nous savons tout cela. Et nous essayons de définir le plus précisément possible ce que veut dire être rendu pareil à lui, mais pas dans la déité. Dans la régénération, nous sommes pareils à Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que nous pouvons l'exprimer. Le Seigneur va épouser une personne corporative. C'est très clair, n'est-ce pas? L'épouse, la mariée. Comment le Seigneur pourrait épouser une épouse qui n'est pas pareille que lui? De toutes les façons possibles, de vie, de nature. Êtes-vous déjà dans un mariage où un homme épouse un hippopotame ou une girafe? Non, c'est absurde complètement. Que notre pensée puisse s'élargir, être renouvelée. Nous connaissons les barrières que nous pourrions avoir en lisant une telle phrase. Nous ne serons jamais, évidemment, un objet d'adoration. Nous n'avons qu'un seul objet d'adoration. C'est notre Dieu. Mais nous serons rendus pareils à Dieu dans la vie, dans la constitution, dans la nature et dans l'expression du Dieu trinitaire. Le dessein de Dieu dans l'univers consiste à produire un groupe de personnes qui soient exactement pareilles à lui. C'est le seul sujet de la Bible. Dans la vie, dans la nature, dans l'image, dans l'apparence, dans l'éclat, dans la gloire, dans l'expression extérieure, ces personnes seront comme Dieu. Je regarde à présent, je regarde vous tous. Vous êtes tous dans ce processus. Vous êtes tous dans 2 Corinthiens 3:18. Nous tous avec un visage dévoilé. Nous regardons, nous contemplons et reflétons la gloire du Seigneur. Nous sommes en train de transformer à la même image de gloire en gloire. Et lorsque je dis des choses positives qui sont encourageantes, je ne le dis pas pour vous rendre heureux, pour rendre les gens satisfaits, content. Je ne suis pas un diplomate, je ne suis pas là pour être dans la fausseté. Je ne suis pas là pour vous mettre à l'aise. Je suis là simplement pour vous dire ce que je ressens. Ça fait 3 ans que je ne suis pas venu à Barlow. À cause de des raisons particulières, mais aujourd'hui je suis parmi vous et je peux dire devant le Seigneur, il y a beaucoup plus de gloire en Europe qu'il y avait en 2016, la dernière fois que je suis venu. Amen, alléluia. Nous allons de gloire en gloire. Nous sommes transformés de gloire en gloire, n'est-ce pas? Pas de gloire, un peu de gloire, un petit peu plus de gloire, un peu plus de gloire, beaucoup de gloire. Presque que de la gloire. Et puis notre être tout entier sera rempli de gloire. Le point B dit que le dessein de Dieu est accompli par la vie divine, dispensée dans son peuple élu et racheté. Puisque la vie de Dieu est forgée dans son peuple, une réaction métabolique se déroule en eux qui les amène à être transformés et à devenir pareils à Dieu. Donc dans Jean 3,15, nous avons la vie qui est dans le Fils. Dans 1 Jean 5,11 et 12, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Nous avons le Fils, donc nous avons la vie. 2 Corinthiens 3,18, je viens d'en parler, et Romains 8,29, nous sommes conformés, nous sommes en train d'être conformés à l'image du Fils premier-né de Dieu, qui est Christ comme le Fils de Dieu en résurrection avec la divinité et l'humanité. Amen. Le dessein éternel de Dieu est de s'œuvrer dans sa trinité divine, dans son peuple. Le dessein éternel de Dieu est de s'œuvrer dans sa trinité divine, dans son peuple, élu et racheté comme leur vie, leur nature et leur tout, afin qu'ils puissent être saturés de Dieu. Éphésiens 3,17 est une autre prière. Paul est en prison. Il est enchaîné à un garde. Et il se met à genoux. Et prie cette prière qui nous est racontée dans Éphésiens 3. Il prie au Père de gloire, les genoux fléchis, de vous fortifier selon les richesses de sa gloire, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ fasse sa demeure dans vos cœurs par la foi. Dans un certain sens, ce verset n'a pas besoin d'être interprété. Certains théologiens intelligents, malins, ils l'interprètent parce qu'ils ne font pas confiance à ce que ce verset veut dire. Christ fait vraiment sa demeure dans votre cœur. Ce qui veut dire, donc c'est la pensée des théologiens, ils pensent que le Seigneur est dans les cieux et qu'il le fait, sa demeure, par un esprit qui représenterait le Seigneur en nous. Non, il faut vraiment être un théologien pour penser de cette façon-là. Non, ce verset dit exactement ce qu'il dit, tout simplement. Eh bien, écoutez, par exemple, il y a 2 jours, j'ai donné un examen à une classe à Anaheim. Je disais, quel est le chapitre dans le Nouveau Testament qui parle à la fois de Christ dans les cieux et de Christ en nous? Ils sont rapides, ils sont intelligents, ils m'ont dit Romains 8, verset 8, verset 10, pardon, et verset 34. Christ est à la droite de Dieu. Donc Christ est à la droite de Dieu, ou est-il en vous? Et la réponse, c'est oui, l'un et l'autre. Il y a un seul Christ, n'est-ce pas? Il n'y en a qu'un, donc c'est le même. Dans Colossiens 1, 27, Christ en vous est l'espérance de la gloire. 2 Corinthiens 13, 5, ne savez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Paul n'a pas dit, ne pensez-vous pas, ne croyez-vous pas, n'espérez-vous pas. Non, il a dit, ne savez-vous pas. Lorsque je pense à cela, je ne veux pas rester comme ça, immobile. Non, c'est merveilleux. Christ lui-même est à l'intérieur de nous. Alléluia. Il veut faire de notre cœur sa maison. J'ai utilisé cette illustration par le passé, mais je vais le faire à nouveau. Ça peut peut-être aider. à répondre à une question. En voyageant pendant des années, notamment quand j'étais seul à le faire, certains saints m'invitaient chez eux à rester dans leur maison, comme un invité. Et ce que je voulais faire en disant aux sœurs, je voulais les rassurer. Ne vous inquiétez pas sur les repas, la nourriture. Ne vous faites pas de soucis vis-à-vis de ça. Et je faisais un petit peu d'humour. Je disais, et si vous pourriez me faire une faveur, ne me donnez pas du foie d'un animal, une nourriture qui lui déplaît fortement pour lui faire une plaisanterie. En gros, pour dire simplement, soyez à l'aise, faites les choses simplement. Et eux me répondaient alors, eh bien fais, mets-toi à l'aise, sois ici comme chez toi. Donc je suis dans une chambre, soit leur chambre à eux, soit la chambre d'un de leurs enfants. Donc quand je reste chez des frères et sœurs, qui me laisse dormir, enfin, ils dorment dans une autre chambre, et moi j'ai la chambre d'un enfant ou des parents. J'ai jamais fait ça, mais je me demandais si je répondais vraiment, si je me mettais vraiment à l'aise, si je faisais vraiment comme chez moi. Si je disais, écoutez, j'aimerais aller chez Ikea, j'aimerais aller acheter de la peinture, j'aimerais changer les murs, la peinture qui est rose, j'aime pas le rose, je préférerais refaire la peinture. Et regardez, voyez, ce lit que vous m'avez préparé, il y a plein d'animaux en peluche, c'est comme s'il y avait un zoo sur ce lit, j'aimerais que vous m'en débarrassiez. Et puis il y a plein de posters de célébrités sur les murs, je pourrais dire, s'il vous plaît, enlevez-les. Il y a peut-être une photographie de la peinture de Van Gogh, où il y a un iPod ou quelque chose d'équivalent qui est dans ma chambre. Et il y a plein de musique de hard rock, 710 morceaux. Et je dis alors, enlevez-moi cette playlist, éliminez-moi toutes ces chansons. Et il était plutôt un sonnet, quelque chose de classique. Et si je faisais une chose pareille, alors ils appelleraient probablement du monde en me disant, écoutez, il faut déplacer le frère Ron et le mettre à l'hôtel. Si je me mettais vraiment à l'aise à la maison chez eux. Mais lorsque vous dites au Seigneur, Seigneur, fais de mon cœur ta demeure, je vous préviens, il va vraiment le faire. Et ce que je viens de faire de manière imaginative, de refaire la chambre ou de repeindre ou de changer le mobilier, le Seigneur, lui, va le faire vraiment. Et cela nous apporte vraiment, année après année, une véritable joie lorsque le Seigneur fait de notre cœur sa demeure. Moi, je n'aimerais pas revenir en arrière, j'aimerais pas à nouveau avoir 25 ans, 30 ans ou 35 ans. Je ne veux pas que vous deveniez âgé comme moi, comme aujourd'hui, mais pour être très honnête, je n'aimerais pas revenir en arrière et revenir par toutes les expériences qui m'ont amené à être ce que je suis aujourd'hui avec Christ qui fait de mon cœur sa demeure. Mais votre futur, j'aimerais vous dire qu'il est rempli de lumière, plein d'éclat, plein de lumière. Parce que cela se produit véritablement en nous. Christ fait véritablement de notre cœur sa demeure. Nous devons voir le dessein de Dieu dans la création et la rédemption. Nous sommes au grand 3. Petit, non, grand A. Le dessein de Dieu en créant l'homme était que l'homme l'exprime et le représente. Le dessein éternel de Dieu est d'obtenir un homme collectif pour l'exprimer et le représenter. Dans Genèse 1:5, il est dit « Leur nom était Adam ». Donc dans Genèse 5:1. Lorsque Adam a été créé, lorsque ses descendants ont été nommés, il a été dit que leur nom sera Adam. Ce qui veut dire que nous sommes une seule personne collective. Nous avons besoin des uns et des autres, nous avons besoin d'être ensemble. La création faisait partie du dessein initial de Dieu, tandis que la rédemption avait un but correctif. La rédemption nous ramène au dessein éternel de Dieu. Donc une personne très éduquée, d'un très haut niveau, dans la connaissance scripturaire, dans la connaissance de l'histoire de l'Église, l'eschatologie, qui était un véritable ami, un véritable frère dans le Seigneur, et qui prenne cette voie-là ou pas, c'est lui qui décide et ce sera son choix, mais nous l'aimons comme notre frère. Et donc je lui ai demandé quelle est la pensée centrale dans la Bible. Et il m'a répondu, très sincèrement, avec une erreur. Il m'a dit, c'est la rédemption. La pensée centrale, c'est la rédemption. C'est la réponse de ce frère. Mais en fait, la rédemption démarre dans Genèse chapitre 3, après la chute. Et elle s'achève dans Apocalypse 20. Lorsque les démons, Satan, la mort elle-même est jetée dans le lac de feu. Donc cela, c'est secondaire. Non, la rédemption ne sert qu'à, quelque part, nous ramener à l'intention, au dessein éternel de Dieu, d'avoir une expression corporative, un homme collectif qu'il exprime sur la terre et qui le représente. Donc nous avons été rachetés pour ce dessein. Et c'est pour ça que Paul a pu dire notamment, nous avons été sauvés selon le dessein de Dieu. Et donc il est très triste que dimanche, après dimanche, tellement de personnes écoutent des sermons avec une vérité biaisée, une vérité prêchée à moitié, en disant que lorsque vous avez reçu la vie divine, vous irez au paradis, dans les cieux. C'est pour ça que Dieu a créé l'univers, vraiment, pour que nous puissions pécher, être rachetés et aller dans les cieux. Non, il aurait pu alors populer, il aurait pu alors créer l'homme dans les cieux, déjà dès le début. Non, lisez la Bible vraiment. Soyez pauvres en esprit, soyez humbles devant le Seigneur. Posez-vous la question. Ne questionnez pas Dieu. Ne remettez pas en question Dieu ni la Bible. Non, remettez en question votre théologie, votre religion, votre enseignement pour connaître la vérité. Le dessein divin dans la création et la rédemption est que Dieu est de nombreux fils. Donc voilà pourquoi Dieu nous a rachetés, pour nous ramener au dessein éternel de Dieu. 4. Dieu nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel, selon son propre dessein et sa grâce. Nous devons, grand A, devons voir le salut du point de vue de Dieu. Le dessein du salut de Dieu est que ceux qu'il a créés et rachetés obtiennent la filialité, c'est-à-dire qu'ils obtiennent la vie du Fils et qu'ils soient rendus conformes à son image, afin que le Fils soit le premier-né parmi de nombreux frères. Voilà le point de vue de Dieu du salut. Récemment, je lisais à nouveau, en lisant le Nouveau Testament, je lisais Luc chapitre 15 à nouveau. J'étais vraiment touché. Après la première parabole, il y a de la joie dans les cieux devant un pécheur qui se repent. Dans la seconde parabole, lorsque la femme recherche le sou, la pièce perdue, il y a une vraie joie parmi les anges dans les cieux que quelqu'un se repent. Au moment où nous avons été sauvés, il y avait des cris d'exultation, de joie pour chacun de nous. Ici, voilà un nouvel être humain qui a été racheté, qui a été sauvé, qui a été ramené à Dieu pour le dessein éternel de Dieu. Oh, que le Seigneur, que l'évangile du royaume puisse vraiment prévaloir au Royaume-Uni, sur le continent de l'Europe, afin que semaine après semaine, il y ait de la joie dans les cieux. Que dans tellement d'universités, de villes, en Pologne, en Allemagne, peut-être dans des pays catholiques, où il y a des gens choisis par Dieu, nous voulons que les cieux se réjouissent, exultent, et que des gens de tous les âges soient sauvés, afin qu'il y ait plus de joie dans les pays du Nord, dans les pays comme l'Italie, comme en Bulgarie, en Espagne, au Portugal, sur toute l'Europe entière, dans le monde entier, qu'il y ait de la joie, parce que des gens sont ramenés au dessein éternel de Dieu. Et voilà pourquoi nous parlons, dans la Bible, on parle de la joie du salut. Il y a une véritable joie dans le salut. Le dessein de Dieu est son plan, selon sa volonté, de nous placer en Christ et nous rendre un avec lui en vue de partager sa vie et sa position afin que nous puissions être son témoignage. Nous pouvons maintenant témoigner devant le Seigneur. Nous pouvons exprimer ce qu'il est et ce qu'il a. Voilà ce qui gagne les gens. Lorsque notre mot, notre témoignage correspond à ce que nous exprimons, il y a une vraie lumière qui brille dans les ténèbres, qui donne l'éclat du Seigneur depuis notre être intérieur. Voilà ce qui est attirant pour les autres. La grâce est la provision de Dieu, nous sommes au grand C, dans la vie qui nous est donnée afin que nous puissions vivre son témoignage. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Seule la grâce peut le faire. Seul le Dieu, seul Jésus qui est en nous peut le faire. Le dernier mot dans toute la Bible, de toute la Bible, c'est « La grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous ». Voilà la dernière parole de Dieu qui nous est adressée. C'était parmi même les dernières paroles de Pierre ou les dernières paroles de Paul. Il dit notamment à Timothée « Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec toi ». Un jour, vous savez, chacun d'entre nous, nous arriverons à un moment où 2 Corinthiens 12:9 est une parole rhéma, une parole vivante. Ma grâce est suffisante pour toi. Ma grâce te suffit à toi personnellement. J'apprécie ce que Paul dit ici. Dans sa souffrance, qu'il appelle cette épine qui le perturbait, qui l'embêtait. Il ne dit pas « Je suis transformé par cette épine. Envoyez-moi une épine plus grande. » C'est de l'ascétisme. C'est être religieux. Non, Paul, très normalement, il dit « Enlevez-moi cette épine. Enlevez-moi cette difficulté. » Donc il prie tout simplement. Il dit « C'est tellement douloureux. S'il te plaît, Seigneur, enlève-moi cette épine. » Donc il prie une deuxième fois, puis une troisième fois. Il n'était pas un héros. Il était un humain. Il dit au Seigneur « Seigneur, enlève-moi cette épine. » Et le Seigneur lui répond « Enfin, ma grâce, elle te suffit. » S'il avait dit simplement « Ma grâce suffit », ce serait objectif. Il a dit « Ma grâce te suffit. Elle est suffisante pour toi. » C'est quelque chose de subjectif. Donc, par la miséricorde du Seigneur, puissions-nous tous, un par un, en arriver à un moment où nous pourrons dire, devant un microphone, à un moment donné, dans un témoignage, ici ou là, dire « Oh, la grâce du Seigneur Jésus-Christ me suffit. Je suis dans cette situation, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je suis dans cette situation compliquée, cette difficulté. Et je prie au Seigneur et il semble qu'il ne va pas intervenir manifestement dans mon environnement. Mais je suis dans la paix parce que sa grâce me suffit. » Puissions-nous tous avoir un tel témoignage. La grâce, c'est Dieu qui est notre réjouissance, qui œuvre toutes choses, qui opère toutes choses, qui nous approvisionne de toutes choses. J'aime ce verset dans Jean chapitre 1, verset 16. « De sa plénitude, nous avons tous reçu et grâce sur grâce. » Comme s'il y avait des vagues de grâce. Une vague de grâce et une autre vague de grâce, nous ouvrons au Seigneur et nous recevons grâce sur grâce. Que le Seigneur, ce week-end, nous apporte toute sa grâce, qu'il donne la grâce à votre famille, à vos parents, à vos proches, à vos amis, aux gens qui sont dans votre cœur, pour lesquels vous êtes attachés, qu'il donne de la grâce dans vos pays, dans vos églises locales, qu'il vous donne grâce sur grâce. Et nous arrivons à présent, bientôt à la fin du message, il est 8h52. Donc on va bien réussir à terminer avant 9h et nous aurons 30 minutes pour pouvoir répondre. Je ne suis pas ici pour m'enorgueillir de cela, mais je suis heureux tout simplement que nous ayons du temps à avoir le partage des uns et des autres. Le salut implique que nous soyons sauvés d'une vie qui est vide de sens. Vous savez, j'ai une véritable attente à Tübingen, dans les universités en Allemagne, ou à Freiburg en Allemagne, partout en Europe. Que des jeunes soient sauvés d'une vie qui est vide de sens et qu'ils puissent avoir une vie qui est pleine de sens. C'est là ma prière, mon attente. L'évangile de Dieu nous sauve d'une vie humaine qui est dépourvue de sens pour nous ramener au sens de l'univers. Waouh, c'est merveilleux. Voilà un message merveilleux pour l'évangile, n'est-ce pas? Et pour vous dire la vérité, il y a un mois, mon épouse et moi, nous étions dans le Massachusetts, à Cambridge, là où est l'université d'Harvard. Et un vendredi soir, j'ai donné un message sur le campus d'Harvard, dans une grande salle de conférence, un amphithéâtre. Il y a peut-être 300 personnes là-bas, 200 frères et sœurs et 100 nouveaux. Et certains étaient vraiment des gens très intelligents à Harvard. Et le message que j'ai partagé était sur le sens de l'univers et le mystère de la vie humaine. Ça donnait un contraste entre les athées, avec une vie naturaliste où l'univers se crée tout seul, ce qui est déjà contradictoire en soi. Et d'un autre côté, Dieu est un Dieu de dessein, un Dieu qui a un dessein, un désir, une volonté, et notre vie peut être remplie de sens, peut être pleine de signification. Ils étaient vraiment ces élèves qui m'ont écouté, ils étaient silencieux, attentifs, et ils ont répondu. Oh, combien de personnes ont besoin d'entendre un tel évangile. Dieu a créé l'homme qui avait un sens et un dessein important, mais l'homme est tombé, il a chuté et le sens de la vie humaine a été perdu. Je ne sais pas si la culture a changé beaucoup, mais il y a quelques décennies de cela, quand j'étais à l'école encore, à l'université, j'ai passé beaucoup de temps à étudier la littérature européenne et l'art et la philosophie. Je me rendais compte de la profondeur très profonde en Europe qu'on n'a pas aux États-Unis, parce que tout ce qu'ils ont traversé au travers de leur histoire a donné cette profondeur. Et dans mon cœur, il y avait cette attente que cette profondeur pourrait être atteinte. Je ne sais pas si le matérialisme a pris le dessus sur cette profondeur littéraire et de l'art et de la philosophie, mais que chacun puisse être amené à connaître le dessein de l'univers et le sens de la vie humaine, et que ce dessein et ce sens puissent percer les couches de la philosophie et de la culture que l'on trouve en Europe, afin que chacun puisse entrer dans le dessein éternel de Dieu pour parachever cet âge et ramener le Seigneur. Vous pouvez même lire mon être, que cet évangile puisse prévaloir partout en Europe. Et le dernier point, avec son salut, Dieu nous secourt et nous ramène à son dessein initial, qui est le sens de l'univers. D'accord ? Je vais laisser les frères nous dire ce qu'il faut faire pour le reste de la réunion. J'ai terminé ma partie à moi, ma partie qui m'incombe, mais le message n'est pas terminé. Il sera complet qu'au moment où, oui, vous tous aurez partagé. Et je suis très sérieux, c'est vraiment toujours très important que selon ce que les frères vont nous dire, et j'aimerais pouvoir boire de votre esprit dans vos partages. Parce que nous poursuivons tous le dessein éternel de Dieu ensemble comme un seul nouvel homme.